Ce texte des Béatitudes suscite un grand éventail de réactions pouvant être totalement opposées, diamétralement opposées. Il y a ceux qui font de ce texte le fondement de leur vie de chrétien, par la prière. Vous connaissez Théodore Monod, qui, à peu près à 20 ans, décide avec son père, Wilfred, de soutenir la vie spirituelle des individus, à commencer par leur propre vie spirituelle. Et il crée un ordre qui s'appelle l'ordre des veilleurs, qui existe toujours, un tiers ordre laïque, dont les membres se donnent une règle. La conduite journalière du veilleur tente de vivre, d'accorder sa vie en harmonie avec l'esprit des béatitudes de Matthieu 5, versets 3 à 10, ce que nous venons de lire. Théodore Monod disait de ce texte qu'il était révolutionnaire, car si l'on essayait seulement de le mettre en pratique, le monde changerait du jour au lendemain et l'homme pourrait enfin sortir de la préhistoire. C'est ce qu'il disait, je cite. L'esprit des veilleurs est donc de travailler dans la prière et l'obéissance, à l'écoute de Dieu, dans le bruissement, mais aussi dans le bruit ou la cacophonie du monde, afin d'entendre les plaintes, les douleurs, afin d'être là présent, au chevet de toute faiblesse. À l'opposé de cet éventail, nous trouvons celles et ceux qui accueillent les béatitudes comme étant le fondement de leur vie, mais qui les rejettent violemment. C'est un programme, disent-ils, et c'est un programme beaucoup trop difficile pour suivre pour n'importe quel humain. C'est quasiment inatteignable. Jamais personne autre que Jésus ne peut vivre avec joie les handicaps qui mettent sous la dépendance des autres dans la vie de ce monde. Jamais personne, disent-ils, ne pourra bénéficier, recevoir ces bénédictions. Ce texte place la barre bien trop haut pour que nous puissions arriver à rejoindre Jésus. Et comme ils admettent que c'est beaucoup trop difficile pour n'importe quel humain, ils décident que finalement, ce n'est pas la peine d'essayer. Ce texte n'est pas un programme à suivre. Je plaide contre cette idée. L'amour de Dieu pour chacun n'est pas conditionné par justement une quelconque proximité avec les douleurs exprimées par Jésus dans ce sermon sur la montagne. L'amour de Dieu est gratuit, il est pour chacun. C'est pas parce que nous serions parmi tous ces cas de malheur dit dans la Bible que nous serions plus proches de Jésus. Donc ce n'est pas un programme. La grâce de Dieu, c'est un amour gratuit. C'est ce que veut dire grâce pour tout être humain. Après, la liberté est laissée à chacun d'accepter cet amour pour lui dans la vie et de le redonner. Être aimé ne veut pas dire, et souvent nous faisons la confusion, être heureux, à la manière de nos sociétés qui, égoïstement, déclinent le bonheur en étant, comment dire, de l'égoïsme. Je suis heureux si tout va bien pour moi, tant pis pour mon voisin. Non. Être aimé signifie que pour Dieu, notre vie, quelle qu'elle soit, quelle qu'elle ait pu être, a du sens, peut retrouver son sens si nous avions la tentation de ne plus y croire. Être aimé signifie que Dieu nous attend toujours. Il nous attend, même si le monde ou nous-mêmes personnellement sommes tentés de ne plus y croire. Alors, je rejette les théologies qui prôneraient l'autoflagellation afin d'être les premiers, les plus proches de Dieu, une sorte de concours. Que je sois triste, que je sois malheureux, que je sois pauvre d'esprit, tout ça c'est très bien, comme ça je serai plus proche de Dieu. Non, ça ne veut rien dire, c'est une erreur. Ne soyons pas non plus désespérés de ne pas être les plus pauvres, les plus malheureux de la terre, parce qu'on serait loin de Dieu, non, c'est tout aussi faux. Au contraire, ouvrons nos yeux, nos oreilles, nos cœurs, afin de retrouver la misère du monde, afin de remonter nos manches pour aider à la combattre. Dieu avec nous dans ce combat. Ce combat retrouvant Dieu en chaque lieu de misère, au cœur du plus bas de la misère, il est là. Christ est là. Nous attendons, nous espérons. Attention aussi, c'est un troisième lieu entre ces deux extrêmes de l'éventail, à ne pas affirmer à la légère, de but en blanc, ce texte aux personnes croisées qui sont perdues, cassées, malades, en deuil. Dans le genre, vous savez, « Bienheureux es-tu, tu as perdu ton père, mais c'est pas grave, tu le retrouveras. » Non, c'est l'horreur. Ça minimiserait le drame que les gens vivent sous prétexte que soi-même, on croit à la résurrection. Donc soyons attentifs à ne pas annoncer avec légèreté les béatitudes à toute personne qui serait dans un cas de détresse. Je nous invite, avec cette première réflexion, à rencontrer quelques mots du texte, juste quelques mots. Le terme « heureux », qu'on traduit par « heureux », en grec signifie « béni ». Ce n'est pas tout à fait la même chose. Bénédiction qui peut indiquer l'attention de Dieu sur chaque être, le bien qu'il veut pour chacun, quelle que soit l'horreur de ce que sa vie traverse, quelles que soient les incompréhensions même des événements douloureux de nos vies, quelles que soient nos colères, comme cet homme qui était en colère devant cette petite fille si malheureuse. Lui, Dieu, est toujours là et il nous a placés là pour essayer de faire quelque chose. Et si nous n'arrivons pas à faire quoi que ce soit, si nous n'arrivons pas à avancer, il est là pour nous soutenir tout autant qu'il soutient l'autre. Il est toujours là, même quand tout semble nous abandonner. Pauvre d'esprit, ça ne veut pas dire les gens qui auraient des handicaps mentaux, du tout. Ça signifie, et c'est comme ça qu'on traduisait dans certaines communautés, ça signifie courbé d'esprit. Et courbé d'esprit, cela veut dire, vous voyez bien, être courbé, ne pas penser se suffire à soi-même. Se savoir dépendant, se savoir nécessiteux du geste ou du regard bienveillant d'autrui. Se savoir dépendant de Dieu agissant au travers des autres, de celui qui s'approche de nous, qui devient notre prochain. Ainsi, courbé d'esprit voudrait dire être vide de nous-mêmes, être des mendiants de l'esprit, plutôt que de s'en croire les possesseurs. Quand nous arrive-t-il de pleurer ? Heureux ceux qui pleurent. Il nous arrive de pleurer si notre corps souffre, si notre esprit désire mais n'obtient pas ce qu'il désire. Et dans ces deux cas, avouons-le, c'est sur nous-mêmes que nous pleurons. Mais nous pleurons aussi lorsque la mort touche ceux que l'on aime, et c'est bien légitime. C'est une séparation, c'est un vide. C'est l'inconsolation. Peut-on dire à quelqu'un dans le deuil « heureux car tu seras consolé » Non. On pleure aussi quand on a commis l'irréparable et que l'on n'a plus que ses larmes à verser pour implorer le pardon, pour croire dans le message de Christ qui offre le pardon dans un avenir nouveau, toujours possible, à construire avec lui, avec Dieu. L'espérance est là quand nous n'avons plus pour prière que de déposer nos larmes devant Dieu, tel son enfant, nous blottissant dans son amour. Espérons là, où plus rien ne semble possible comme espérance. Qu'est-ce que la douceur dans le texte que je vous ai lu ? C'est plutôt l'humilité, la non-violence. Celui qui sait qu'il a des droits, et même s'il sait cela, il ne va pas les imposer. Il essaiera plutôt de faire vivre la terre et ses habitants. Cette terre dont nous avons hérité et qui, en vivant ainsi, sera possible comme terre pour nos enfants. et pour tous les enfants de Dieu. On parle de justice aussi dans ce texte. La justice de Dieu est plus proche de la notion d'ajustement de sa vie à la volonté de Dieu, à l'enseignement de Jésus. Dans cette fidélité, faim et soif de justice engagent, obligent et mènent vers un droit chemin de vie selon l'amour et la compassion. Heureux ceux qui sont compatissants car ils obtiendront compassion. J'ai envie de dire heureux ceux qui aiment car ils seront aimés. Le miséricordieux est celui qui sait pardonner. Plus au corps, c'est celui dont le cœur saigne à voir et à savoir la souffrance du voisin, de l'autre. Il est déjà il est là, lui, dans l'ordre de l'amour de Dieu. Heureux ceux qui ont un cœur pur, car ils verront Dieu. Ce sont là ceux dont la volonté, la conduite de vie dans le monde est tout entière tournée selon la fidélité de Dieu, leur fidélité à Dieu. Tels ils sont vus par Dieu, et tels ils peuvent voir. Quand on nous parle de persécution, j'ai bien fait attention en le lisant de le dire assez fort après. Heureux les persécutés, pas tous les persécutés comme ça pour n'importe quoi. Heureux les persécutés à cause de moi, dit Jésus. N'oublions pas, c'est à cause qui sont donnés dans le texte. Alors je nous invite à nous interroger, à laisser nos vies être interrogées par ce texte. Quel est donc l'horizon qu'il indique? Est-ce que c'est un horizon pour après sa vie dont on ne sait rien? Non, c'est un horizon immédiat. Remettre debout, digne dans sa vie, tout être qui est à terre. Ce texte est un moteur de la vie. Ainsi que le vivent dans leur veille, prières et actions, les veilleurs. Mais pas seulement. Ainsi que le vivent aussi les membres de l'ONG, l'ACAT, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Je vous présente rapidement maintenant l'ACAT. C'est donc une ONG qui s'appuie sur la conviction que tout être humain tient sa dignité de Dieu et que la torture est la négation absolue de la dignité propre à chaque personne. Elle s'appuie donc sur l'article de la 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais elle s'appuie aussi sur l'évangile de Matthieu, sur le verset 40 du chapitre 25, mais aussi sur les béatitudes. La CAT s'adresse à tous, sans distinction politique, ethnique ou religieuse. Elle considère toutefois que les chrétiens sont dépositaires d'un enseignement unique sur le sens de la personne et qu'il est de leur responsabilité d'un enseignement unique. Et qu'il est de leur responsabilité au premier chef de s'opposer à la torture, à l'usage de la torture. Il est de leur responsabilité de condamner la peine de mort, qui est l'exemple suprême de la torture, qu'il est de leur responsabilité d'accueillir celles et ceux qui fuient leur pays car ils y sont en danger, ayant déjà subi bien des violences là-bas, des tortures. Oui, ceux qui sont partis de leur pays, ou qui en partent, ou qui arrivent chez nous, car ils n'ont pas où aller ailleurs, sont des gens qui ont du courage. Parce que quitter son pays, définitivement parfois, est loin, très loin, d'être une décision prise avec plaisir. L'ACAT revendique son identité chrétienne. L'ACAT vit l'œcuménisme au quotidien. Par son action, elle permet de faire progresser le dialogue entre les chrétiens. Elle leur permet de se retrouver unis dans la prière et dans l'action, dépassant leurs luttes anciennes et considérant leurs différences actuelles comme une richesse, bien plus qu'un obstacle. Je terminerai donc en disant que le combat des membres de cette ONG engage dans la rectitude du chemin, dont le regard est tourné vers le frère, simplement parce que Dieu habite ce regard, simplement parce que Dieu habite le frère et nous attend. Amen.